Théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Au risque de vous déplaire, ce ne seront pas les voix du crépuscule, mais c'est bien Pièce détachée, l'émission du spectacle vivant à la radio, comme une fois par mois. Et ce soir, nous allons commencer avec l'interview de Joris Lacoste pour son spectacle Nexus de l'adoration, qui se terminait hier à la MC 93. Et on laisse Thomas l'interviewer tout de suite.
Avec Hélène.
Avec Hélène.
Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
Joris Lacoste, merci d'être avec nous ici à la MC 93 à Bobigny, où vous présentez, dans le cadre du Festival d'automne, la pièce que vous avez créée cet été à Avignon, Nexus de l'adoration. Il s'agit d'une cérémonie, d'une célébration, une messe, disons-le, qui souhaite chanter les choses du monde, toutes les choses du monde, celles qu'on apprécie comme celles qu'on aborde, chant liturgique qui, compte tenu de la tâche, pourra se poursuivre jusqu'à la fin des temps, au-delà même du spectacle.
Donc il s'agit plutôt d'une sorte de concert, au point qu'à un moment du spectacle, on aimerait le chanter avec vous. Comme dans une comédie musicale, comme dans une messe où, sur les prix de Dieu, on trouve les textes des chants de la cérémonie. Alors, deux questions en une. Allez-vous produire un disque de spectacle, de ce spectacle ? Et la pièce a été créée au Festival d'Avignon l'été dernier et est depuis en tournée. Observez-vous de notables différences de réception entre un public de festivaliers et le public tout venant ?
Bonjour.
Oui.
Pour la première question, oui, on travaille sur un album de chansons tirées du spectacle. C'est pas un enregistrement du live du spectacle, c'est vraiment un album studio où c'est moi qui vais chanter la plupart des voix. Parce qu'en fait, pour préparer le spectacle, j'avais fait plein de maquettes musicales où j'avais composé la musique et je m'étais enregistré pour voilà, donner une idée aux interprètes. Et pour voilà, quand on s'est dit que ça serait bien depuis beaucoup de gens en fait après Avignon nous ont demandé si on pouvait trouver la musique quelque part, etc. Donc avec la Muse en circuit qui est partenaire du spectacle, qui est un centre de création musicale, on s'est dit que ça serait bien d'essayer de voilà, d'en faire quelque chose. Et on est reparti de ces maquettes. Il y en a déjà 4 qui sont disponibles sur YouTube. Et l'album définitif, on a prévu de le sortir le 31 mars.
Oh super. Et la réception?
Différence de réception, je sais pas. Disons qu'à Avignon, c'est toujours un peu particulier parce que il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de gens qui voient plein de spectacles dans la journée. Il y a donc une attention qui est pas exactement, peut-être pas aussi disponible que dans d'autres. Moi, je dirais que la réception, elle est un peu différente partout, en fait. C'est pas tellement les festivals et les autres lieux. Avant de venir ici, on était à Strasbourg, au Maillon, pour le Festival Musica. C'est aussi un festival, mais c'est un festival plus de musique. Et donc, c'est un public mélangé à la fois de gens qui viennent voir, qui viennent parce qu'ils ont l'habitude d'aller au Maillon, qui est un théâtre assez généraliste, et des spectateurs disons plus mélomanes, plus spécialisés en musique. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ces mélanges de publics. C'est un spectacle qui joue beaucoup sur l'hétérogénéité, enfin, le sujet même est l'hétérogénéité des choses du monde, l'hétérogénéité de nos expériences du monde. Et donc, c'est, je pense, un spectacle qui fonctionne quand on a un public qui est lui-même hétérogène. Et ça s'entend, en fait, dans la salle, puisqu'on voit que selon les références qui sont convoquées à tel ou tel moment, c'est pas les mêmes personnes qui réagissent sur des références qui sont celles, je sais pas, des références de jeux vidéo, par exemple. Il y en a certaines qui les comprennent, d'autres pas. Et après, on va avoir une référence à la musique classique, ou à la poésie latine. Et là, c'est tout à fait d'autres endroits du public qui rit ou qui se manifeste. Et donc, je dirais, ouais, c'est plutôt ce genre de... Donc, plus le public est mélangé, je pense, plus l'expérience est intéressante pour nous.
Et forte, quoi. C'est une sacrée entreprise, hein, si je puis dire. Toutes les choses du monde, chanter la gloire du tout venant. Il semble qu'il y ait dans votre proposition plusieurs couches d'influence, vous en avez parlé là. Du doom scrolling que nous pratiquons tous sur les réseaux sociaux et qui fait se succéder une vidéo de chat à un manifestant contre des méga-bassines, à la procession de l'étang chez Plotin, en passant par Yankelevitch et son je ne sais quoi et presque rien. Et moi, j'ai envie de vous demander, mais de quel côté vous balancez, pop culture ou érudition ?
Ah ben justement, l'idée, c'est de ne pas prendre, parti. Nous, on essaie de se situer à un endroit qui serait un endroit, je dirais pas au-dessus, mais plutôt en deçà de toutes les choses, disons un espèce de niveau moins 1, de plan qu'on essaie de construire et sur lequel, en fait, on n'a plus... Les questions, disons, de hiérarchisation ou les questions, disons, de valeurs, de choses qui sont des valeurs, des questions qui sont toujours extrêmement relatives, subjectives. Chacun apporte on donne des degrés d'importance, de valeur aux choses selon nos propres valeurs et selon nos propres expériences, nos cultures, etc. Et nous, on essaie de créer un plan où toutes ces questions de valeurs sont suspendues, comme si un peu si on essayait d'imaginer une fiction, disons, d'un public total, on essaie de voir comment n'importe quelle chose pourrait être équivalente. Enfin, chaque chose pourrait être équivalente.
Oui.
C'est pas, disons, que la question, c'est que les choses, c'est ce que je trouve dans le spectacle, les choses sont libres et égales en droit. Toutes les choses sont libres et égales en droit. Une chose fragile égale une chose forte, une chose belle égale une chose, etc. Et l'idée, c'est pas qu'elles le sont pour chacun. C'est l'idée que c'est que c'est une manière de le présupposer, de façon ensuite à pouvoir les appréhender et les regarder différemment, sans a priori, et d'essayer de comprendre et de construire surtout de nouveaux types de rapports.
Et donc, ben justement, certains peuvent penser que votre spectacle, en juxtaposant les choses du monde, ne prend pas parti et convie au relativisme. Pourtant, il est assez clair que vous organisez, vous faites état d'un point de vue, une identité qu'on dirait queer au plateau, la recette des cocktails Molotov, la kétamine, la White Widow, l'évocation par deux fois de Spinoza, et sans jamais les nommer du rhizome de Deleuze ou du panopticon de Foucault. On est clairement chez les wokistes et ça n'est pas pour nous déplaire. Et donc, vous faites s'entrechoquer des choses que l'on désire avec des choses que l'on préférerait éviter, semblant nous dire que tout est lié. Est-ce votre manière de produire une pièce intersectionnelle ?
Ben disons qu'il y a une certaine part de mauvaise foi dans cette entreprise. Et il faut distinguer le plan de la fiction. Donc on postule une nouvelle religion qui se donnerait pour but de célébrer toutes les choses du monde sans aucune forme de préférence ou de hiérarchie. Ça, c'est la fiction. Et après, est-ce que nous, en tant que dramaturges, on décide de mettre en avant dans ce spectacle-là et quelles choses on prend et comment les choses se succèdent. Et ça, c'est évidemment... Disons que dans la fiction, tout se succède au hasard. Et c'est vraiment on whipine, quoi. C'est comme dire que tout est... Il y a une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. En réalité, c'est une écriture. Et sur le plan de l'écriture, évidemment, il y a des rapports qu'on construit, il y a des connexions, il y a des effets on prépare des effets de sens ou de contraste, et on fait apparaître des formes aussi d'ironie. Mais je dirais ça, c'est vraiment c'est là où c'est important de garder une sorte de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on peut jouer complètement sur le discours de tout est égal, et en réalité dans ce qu'on entend, on voit bien que on fait des choix.
Oui.
Mais nous qui faisons des choix, c'est pas le même nous, c'est le nous dramaturge, c'est pas le nous
de la fiction,
du
personnage
dans la religion qu'on essaie de figurer.
Bah, c'est pas la première fois que vous avez ce désir d'exhaustivité à chanter toutes les choses. On le retrouve déjà dans Encyclopédie de la parole, où vous tentez de récolter et d'exposer tous les types de prises de parole possibles, ce qui prenait souvent la forme d'une chorale, d'une pièce musicale. Et pour ce spectacle, Nexus de l'Adoration, vous avez sur votre site proposé une nouvelle entrée dans laquelle le ranger néphérisme, c'est-à-dire rite et célébration. Et vous semblez cette fois vous ranger du côté d'un théâtre rituel, peut-être celui d'Artaud. Mais lorsqu'on décide de dire les choses comme cela, sous forme de suite, est-ce qu'il faut se plier aux catégorisations ? Autrement dit, est-ce que vraiment vous avez hésité entre théâtre et concert ?
Disons que j'avais très envie de faire de la musique, de faire une pièce musicale, et il se trouve que je fais du théâtre depuis longtemps. Et que donc mon désir de musique a pris sa forme, a pris forme dans, dans ma pratique, qui est une pratique théâtrale. Et comme je n'avais jamais fait de musique avant, je me suis mis à composer de la musique aussi avec des outils de pensée, des outils dramaturgiques, qui sont ceux que j'utilise pour faire les spectacles que je fais. Donc, le projet à l'origine était aussi de faire une comédie musicale. Parce que je me disais, dans cette idée de religion, il y a une dimension de communion dans, dans toute cérémonie religieuse, de participation du public, qu'il faut réussir à mettre en jeu. Et dans les configurations théâtrales dans lesquelles on joue, ou en tout cas auxquelles on est assigné, à savoir des grandes salles avec un plateau frontal, etc., c'est difficile de trouver des... Puis surtout parce qu'on a un public qui dans la fiction peut-être est un public de fidèles, mais qui dans la réalité sont des gens qui viennent voir un spectacle, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir et qui ne peuvent pas reprendre et chanter les chansons comme à la messe ou dans d'autres cérémonies. Et donc je me suis dit... La forme de la comédie musicale, c'est la forme la plus proche de quelque chose qui serait de l'ordre d'une... où le public est engagé à participer parce qu'il y a des choses qui sont musicales, qui sont rythmiques, ou au moins le corps est engagé de façon plus directe et moins, disons, moins distante ou moins critique. Donc, les moments de chanson et les moments de chorégraphie sont des moments où, comme dans un concert, on a un rapport un peu naïf, un peu direct, disons, à ce qui se passe sur scène. Et c'est un moment là qui, pour moi, est la chose qui se rapproche le plus de quelque chose de l'ordre de la communion.
On l'a dit, votre spectacle, au-delà de produire une litanie de tout ce qui existe et même de ce qui n'existe pas, est en lui-même une suite de choses, un patchwork de formes spectaculaires. Cours de fitness aérobique, sermon d'une intelligence artificielle, coaching de développement personnel, concert électro de Laurie Anderson, stand-up, chorégraphie de Pina Bausch ou de Anne-Thérèse Atkinsmaker, une liste à la Pérec qui semble en fait appliquer tous les principes de la méthode W qui permet de penser le spectacle vivant et la performance notamment. Rien ne semble ici laissé au hasard. Au moment où le spectacle peut apparaître distant, presque froid, dans l'énumération, arrive l'évocation du décès de la mère d'une des interprètes qui, tout à coup, apporte l'intime nécessaire à votre proposition. Et tout de suite s'enchaîne une petite farce de Thomas Gonzalez, comme pour déjouer le pathos. Comment avez-vous travaillé avec vos interprètes ? Comment travaillez-vous avec eux ?
C'est la question la plus difficile. Déjà, je travaille différemment avec chacun d'entre eux. Il n'y a pas une méthode générale. C'est souvent des rapports de complicité, des relations qui se... Mais disons, dans le temps des répétitions, il y a vraiment eu deux méthodes assez différentes. Toute une partie du spectacle, la première heure à peu près, que j'ai vraiment écrite entièrement. Et j'ai même fait une maquette sonore, comme je disais tout à l'heure, où j'ai vraiment fait toutes les voix, etc. Donc c'était vraiment une partition très très précise que je leur ai demandé d'interpréter. Et ensuite, on a trouvé la manière de la mettre en scène et de la jouer, etc. Mais c'était vraiment... Et ensuite, dans la deuxième partie, ou la partie centrale, c'est la partie où il commence à parler à la première personne, ce qui n'est pas du tout le cas au début du spectacle. Ouais. Il commence à dire « moi j'aime ceci, moi j'adore ça ». Il développe des petites narrations, ou en tout cas des petites anecdotes. Et ça, c'est des choses qu'ils ont, eux, développées en improvisation, et qu'ensuite, on a réécrit ensemble, et qu'on a travaillé ensemble. Donc, il y a toute cette partie-là qui vient vraiment des interprètes, et notamment l'histoire de la mort de Tama, par exemple, que vous évoquez. Voilà, donc c'est... Disons que c'est très... Et après, quand je dis que le travail est différent avec chacun, c'est qu'ils ont aussi... Ils ont aussi des peut-être pas des fonctions, mais en tout cas des places dans le spectacle qui sont assez différentes. Et puis ils ont aussi des interprètes qui ont des parcours très différents, qui viennent de traditions théâtrales ou chorégraphie, enfin, des gens qui viennent du théâtre, de la danse, d'autres plus de la performance, d'autres de la musique, et donc qui ne travaillent pas de la même façon. Donc avec chacun, j'ai essayé de trouver la bonne manière, de la bonne justesse par rapport à l'ensemble et au rapport collectif, pour qu'on ait à la fois... On voit à la fois des singularités très fortes qui s'affirment quand elles ont besoin de s'affirmer, et qu'en même temps on ne perde jamais le lien, le collectif et l'impression d'ensemble et de communauté. En fait, c'est vraiment aussi cette question de l'hétérogénéité qui était notre point de départ, notre point central.
Oui, comment faire communauté?
C'est l'hétérogénéité des choses qu'on évoque, mais c'est aussi l'hétérogénéité des interprètes sur scène, c'est-à-dire qu'ils aient... On sent qu'ils ont tous des histoires, des parcours, et puis ils ont aussi des générations différentes, donc des cultures différentes, des références différentes, et qui fait écho aussi à l'hétérogénéité des gens du public.
En 1984, George Orwell évoque dans ce monde dystopique et totalitaire la novlangue, une langue qui supprimerait des pans entiers du vocabulaire pour renforcer le pouvoir en place. Le mal n'est plus le mal, hein, il devient le un bon, et on ne peut plus se rebeller contre lui puisqu'on ne peut plus le nommer. Est-ce que justement, vous ne nous rendez pas un peu de pouvoir, vous, en nommant les choses, et est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris par la réaction de certains spectateurs vis-à-vis de cet empowerment? En effet, la pratique de la disjonction provoque des réactions dans le public, notamment des rires.
Il y a un mot important dans ce que vous venez de dire, c'est le mot de disjonction, qui en effet est, disons, la stratégie première de toute la pièce, c'est-à-dire le fait de choisir des choses qui sont toutes des choses très banales et très familières, mais les organiser de façon à ce que il n'y ait aucun rapport direct de l'un à l'autre. Une odeur de peinture fraîche. Et après, ça va être un super Picsou géant, un sosie de Léon Marchand, une nouvelle période glaciaire, un chaton qui joue du piano. Et donc, on a organisé, donc on a fait des listes d'abord de milliers comme ça de choses. Enfin, moi, j'ai commencé il y a plus de 3 ans à faire des listes, en essayant de nommer comme ça toutes les choses du monde, en essayant de rien oublier. Donc, je passais mon temps à me dire « Ah mince, j'ai oublié, je parle pas du tout, par exemple, des ateliers de gestion de conflits. » Et donc, je parle pas de... Voilà. Et donc, j'essayais comme ça de faire des listes, donc des choses concrètes, des activités, des concepts. Alors, moi, je dis « Ah, mais il n'y a rien d'historique. » Et donc, je dis « Ah mince, il faut que je rajoute, je sais pas, la prise de Constantinople. » Parce qu'on dit les choses du monde, c'est vraiment tout ce qu'on peut appeler une chose, quoi. Quand je dis une chose, c'est vraiment au sens le plus large possible. Ça comprend les êtres vivants, les êtres humains, les événements. Et donc j'ai commencé par faire cette liste, et ensuite la question, et j'ai fait participer les interprètes aussi, évidemment, pour pouvoir l'enrichir de leurs différents, voilà, chacun a des sorte de, enfin, moi j'ai évidemment beaucoup d'angles morts, de choses auxquelles je peux pas penser tout seul, donc c'était important de la collectiviser, les interprètes et puis aussi pas mal d'amis qui ont participé de manière à avoir le plus de références possibles dans le plus de monde, de faire rentrer le plus de monde possible. Et après, le grand travail, c'était l'organisation, c'est-à-dire la composition de ces éléments par à la fois ce principe de disjonction, donc faire en sorte qu'il y ait une chose que les choses n'aient pas de rapport direct, et en même temps que ça laisse quand même, donc ça produit des effets comiques évidemment, enfin, ça peut en produire parce que parfois c'est très inattendu, parce qu'on a, je sais pas, une frappe nucléaire tactique, et puis juste après on a l'eczéma de Michel Houellebecq, et c'est deux choses à la suite totalement improbables. C'est à la fois une opération poétique élémentaire, et en même temps c'est aussi une stratégie comique très facile, mais je trouve que ça fonctionne quand l'endroit de relation, c'est-à-dire moi ce que j'appelle une relation sans rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport direct, mais dans l'ensemble, il faut qu'il y ait la possibilité, la vague possibilité pour le spectateur ou la spectatrice de se construire une forme de narration. C'est-à-dire que si c'est vraiment trop éloigné, parfois c'est trop forcé, et là on bloque. On sent trop que c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il faut trouver un endroit où les choses n'ont rien à voir, et en même temps, elles pourraient peut-être, si on cherchait, on sent qu'il y a peut-être un rapport possible. On n'a pas le temps, évidemment, de le former, mais il y a quand même la possibilité d'un rapport. Donc ça, c'est vraiment la stratégie, centrale, disons, pour toute la composition de la pièce à différentes échelles, à l'échelle de ces listes-là, mais aussi à l'échelle des scènes entre elles. Et... voilà. Après, sur la... disons, la manière de renommer le monde, je pense que c'est vraiment cette pratique élémentaire de nommer les choses de façon, enfin, vraiment nominale, c'est-à-dire sans verbe, sans syntaxe, d'avoir juste, de dire vraiment juste un chromosome Y, ou de dire juste un perroquet qui chante Crazy in Love, et de laisser ces choses-là flotter comme ça, dans l'espace, et de manière d'une part à produire des images, parce que la plupart du temps ça produit des images mentales, mais aussi à rappeler, c'est comme une manière de rappeler, ah oui, il y a aussi ça qui existe, ah oui, il y a aussi ça qui existe, ah, puis on pourrait penser que là on est dans quelque chose qui est, je sais pas, qui devient un moment un peu politique, grave, et puis tout d'un coup on a quelque chose de très trivial, parce qu'on a une référence à, je sais pas, une influenceuse de pouvoir jouer avec des types de références, de rapports du plus, de la culture la plus classique à la culture la plus populaire, en évitant encore une fois les effets de hiérarchie. Et ça, c'est, pardon, et ça, c'est. Il y a un monologue vers la fin du spectacle qui est mené par Rita Serrage, qui pour moi est un peu ce qu'on a appelé glossolalie, qui est un peu le glossolalie, donc c'est le parler en langue, hein, c'est-à-dire le moment où, dans la tradition évangélique, surtout je crois, l'Esprit Saint parle à travers une personne possédée, souvent dans des langues qui sont des langues qui n'existent pas, enfin, des langues inventées. Nous, c'est une forme de discours comme ça où toutes sortes de choses s'enchaînent avec une impression de logique, c'est-à-dire qu'elle recrée des liens entre ces différentes choses, parce que du coup on remet de la syntaxe là, on remet des liens logiques, et puis après, etc. Mais en fait ça reste complètement décousu dans son discours, et pour moi ça c'était vraiment, et donc elle passe comme ça elle fait valser comme ça toutes sortes de références, et à un moment voilà elle parle de France Gall, et puis juste après elle parle de du réalisme spéculatif, et puis ensuite elle fait une référence à Question pour un champion, enfin voilà, et c'est ce genre de rapidité qui là je trouve à un moment trouve son effet, c'est-à-dire que l'important c'est d'amener les spectateurs à un endroit où ils sont eux-mêmes traversés par cette multiplicité qui rappelle en tout cas la multiplicité et la la complexité des mondes, des mondes qui composent le monde dans lequel on vit.
Oui, vous avez beaucoup travaillé sur l'hypnose. Vous avez même conçu le projet d'un spectacle mental où l'acteur, la lumière, l'ensemble du dispositif produiraient les conditions nécessaires à une expérience hypnotique où chaque spectateur se mettrait à rêver son spectacle. Est-ce qu'ici encore, vous vous servez de cette expérience, tant parfois la litanie, la lenteur peut conduire à la léthargie et à la rêverie?
Je dirais ce qui est le plus proche de l'expérience hypnotique, c'est le rapport au langage. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'hypnose, quand je l'ai découverte et quand j'ai appris à la pratiquer, c'est de voir à quel point quelqu'un sous hypnose produit des hallucinations à partir d'énoncés. C'est-à-dire quand on raconte une histoire ou quand on décrit une situation à quelqu'un qui est dans un état modifié de conscience, la manière dont cette personne va mentalement imaginer la situation. Par exemple, si je vous dis imaginez maintenant que vous vous promenez dans une forêt et c'est l'hiver et vous entendez quelques oiseaux et vous sentez le bruit l'odeur d'une fumée, de quelque chose qui brûle. Mm-hmm. Bon. Vous allez sous hypnose physiquement ressentir ces sensations. Et donc ça produit des rêves, moi ce que j'appelle des rêves préparés ou des rêves guidés, qui sont extrêmement vivaces. Et donc il y a un rapport sous hypnose, il y a un rapport exacerbé. Disons, c'est comme si le langage trouvait une effectivité
performative
extrême. Et ça, c'est ça qui m'avait vraiment intéressé quand j'avais pratiqué l'hypnose. C'était tout d'un coup de me rendre compte qu'il y avait le pouvoir poétique du langage était poussé à son degré d'effet de manière. Et dans Nexus de l'adoration, on ne travaille pas avec cette stratégie, on n'essaie pas du tout de mettre les gens en hypnose comme j'ai pu le faire dans ce spectacle qui s'appelait Le Vrai Spectacle, où là on proposait vraiment aux gens d'entrer en hypnose pour vivre et imaginer un spectacle mental. Mais néanmoins, dans la succession comme ça d'images où on laisse le temps aux gens, on propose un énoncé, il y a un rapport à l'imagination. Moi j'ai toujours fait un spectacle qui est quand même plus sonore et plus verbal ou plus que j'ai jamais beaucoup travaillé sur les images dans mes spectacles, j'ai jamais utilisé la vidéo, j'ai toujours des décors qui sont assez simples. Bon, là il se trouve qu'il y a des lumières particulièrement travaillées et complexes, mais c'est j'ai toujours fait plus confiance, disons, à l'imagination du spectateur qu'à la production vraiment de visuels et d'images fortes sur scène. Et de ce point de vue là c'est pas très différent aussi avec le travail que j'avais fait avec l'Encyclopédie de la Parole, où visuellement, en tout cas la performance était toujours assez minimale, et c'est par le pouvoir des mots et du langage que les gens pouvaient imaginer des situations et des personnages extrêmement précis. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'oui, il y a une forme de continuité. Oui.
Votre spectacle est très apaisé, produisant une sorte de méditation guidée qui oscille entre tragique et farce sans jamais forcer la main. Et peut-être est-ce quelque chose que vous avez emprunté à la liturgie catholique. Et on se prend à se demander ce qui, dans votre spectacle, prend la place de l'homélie, ce qui relève de la paix du Christ. Est-ce que vous êtes inspiré de rites existants?
Mais oui, complètement. Ah. C'est drôle parce que le discours d'accueil, la deuxième scène là, qui est performée par Daphné Biganwanak, on l'appelle homélie entre nous dans le texte là. Et
ce qui dit par une espèce de robot IA
d'IA, non je dirais pas d'IA mais de robot certainement, enfin en tout cas elle passe par plein de voix différentes. Elle commence par une voix un peu effectivement robotique. Et après, sa voix se transforme, elle prend une voix plus professorale, une voix plus en mode Siri, plus une voix d'enfant, elle traverse différentes. Et le texte aussi joue avec différents codes, puisque c'est un jeu vraiment sur une manière de s'adresser. C'était une manière de s'adresser aux gens en essayant d'utiliser le plus de de codes de langage possibles, de pouvoir s'adresser en parlant, disons, en mode jeune ou urbain, et puis juste après en mode très universitaire, et puis en mode politique, et puis en mode un peu religieux. Et donc c'était une manière de mélanger tous ces modes-là, à la fois dans le texte et, mais pas forcément au même moment, dans les voix que Daphné prend. Donc c'est une manière de multiplier comme ça aussi, de toute façon, avec cette idée que, voilà, de manière aussi, comme pour tout le reste du spectacle, à ce que chacun puisse à un moment se raccorder à la chose qui lui parle le plus, parce qu'il y a des expressions ou il y a des manières de parler qui vont parler plus à d'autres, à certains qu'à d'autres. Et, mais pour répondre à la question sur la liturgie, moi, j'ai pas du tout de culture religieuse, pas du tout. J'ai des parents communistes, donc mais pas du tout. Jamais allé à la messe de ma vie. Enfin, j'y suis allé très tard par curiosité, mais vraiment pour étudier, adulte. Mais j'ai pas du tout cette culture-là. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, je me suis mis à écouter la messe sur France Culture le dimanche à 10h. Mais c'est la messe, c'est vraiment la seule qui est retransmise en direct, littéralement. Et en fait, j'étais assez frappé par l'efficacité dramaturgique. parce que je trouve que y a une manière d'enchaîner les discours, les chants, alors les chants individuels, les chants choraux, avec un rapport au temps aussi, ça s'enchaîne toujours très bien, il n'y a jamais de pause. Enfin, c'est quelque chose qui est très bien rythmé, je trouve. Alors, ce n'est pas notre seule influence, hein, bien sûr. Il y a d'autres rites beaucoup, beaucoup plus païens et beaucoup plus contemporains ou queer ou qui ont pu qui traversent aussi le spectacle, mais de ce point de vue là en tout cas du point de vue de la dramaturgie et de l'alternance comme ça, de choses parlées, de choses chantées, bon, nous on a aussi des choses dansées, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la messe, non, que je sache, même si je l'écoutais qu'à la radio, mais je pense pas que ça danse beaucoup. De ce point de vue là oui, je peux dire que, en tout cas, ça m'a rassuré d'écouter la messe. Je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose là dans cette... quelque chose qui, moi, me tient, même si je ne suis pas très attentif au contenu, il y a quelque chose qui me tient musicalement, rythmiquement, et donc peut-être je peux tirer profit.
Joris Lacoste.
Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez Pièces Détachées, et à l'instant vous écoutiez des extraits de la pièce Nexus de l'Adoration, mise en scène par Joris Lacoste, qu'Hélène et Thomas ont interviewé. Et c'est l'heure maintenant, vous les attendez, ce sont les chroniques.
Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Alors, plusieurs chroniques ce soir, comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe. Ce sera Élie de Téguestan, qui se joue au théâtre Nanterre-Amandier jusqu'au 20 décembre. I Will Survive, des Chiens de Navarre, que vous pouvez voir à la Villette jusqu'au 13 décembre. Occupation, de Séverine Chavrier au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 15 décembre, dans le cadre du Festival d'automne. Et Morphage, de Valérie Anguillaume, au théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 9 décembre, donc jusqu'à demain. Eh bien, allons-y. On va commencer avec Élie de Téguestan.
À propos d'Élie.
Ah, à propos d'Élie, autant pour moi, excuse-moi. À propos d'Élie de Téguestan. Et c'est Camilla qui chronique.
À propos d'Élie. J'ai vu ces films de 2009 réalisés par le talentueux Asghar Farhadi il y a un mois. J'étais complètement captivée par cette analyse poétique des sentiments qui constituent les relations humaines, des relations humaines comme l'amitié et l'amour. L'histoire est simple. Nous sommes en Iran, un groupe de vieux copains se retrouve pour passer quelques jours ensemble à côté de la mer. Dans les groupes, il y a aussi Ellie, qui ne fait pas partie de la compagnie. Ellie, c'est l'institutrice de la fille de Sepide, qui l'a invitée sans vraiment la connaître. Sepide, c'est une femme et c'est un peu l'âme du groupe, celle qui organise, dirige, donne les tons, qui tient ensemble tous ces groupes de vieux copains. Ellie semble, de son côté, semble joyeuse et tout le monde voudrait la faire sortir avec Ahmad, le seul célibataire du groupe. Il a récemment divorcé et il voudrait retrouver une nouvelle personne. Et Sepide essaie de pousser Ellie et Ahmad dans les bras l'un de l'autre. Mais rien n'est évident. On mange, on danse, on rigole jusqu'à un événement tragique qui transforme les week-ends entre copains en cauchemar. Suite à cet événement, on découvre au fil de la pièce une trahison, ou plutôt plusieurs trahisons. Créée au printemps 2023, cette adaptation du film d'Asghar Farhadi réunit 11 comédiens d'horizons différents, irakiens, iraniens, belges, néerlandais, afghans, et issus des 4 compagnies de théâtre. C'est une pièce construite sans metteur en scène, fidèle à la ligne collective de Téguestan. La scénographie est très austère, le plateau est presque vide, une bâche, des couvertures, des chaises, rien d'autre. Au fond du décor est suspendu un énorme tableau avec un paysage marin triste. Chaque acteur, ils sont 11 sur scène, joue plusieurs personnages et c'est drôle de voir comment les comédiens jouent les enfants juste en ajoutant une casquette. Il y a des bonnes idées, comme dans toutes les pièces de Téguestan, mais j'ai trouvé cette adaptation théâtrale fade. Elle n'a pas du tout la même puissance que les films et les personnages n'ont pas vraiment de profondeur. C'est dommage. On ne ressent pas l'angoisse et c'est beaucoup plus édulcoré. C'est assez décevant quand on connaît le travail incroyable de Téguestan. Il y a juste un moment qui m'a semblé touchant. C'est l'arrivée dans le groupe de la personne trompée, de ce fiancé si amoureux et si terrible dans son amour qu'il ne réalise pas que son aimé a pu l'oublier et imaginer de le tromper. C'est assez déchirant. Moi, ça m'a brisé le cœur. Je ne sais pas toi, Guillaume. Et au théâtre, ça n'arrive pas souvent. On s'interroge ici sur la place de la vérité dans une relation d'amour et dans un groupe d'amis. Faut-il être toujours sincère? Et pourquoi? Et toi, Guigui, tu en as pensé quoi?
Alors, Téguestan, bah, moi, j'y allais quand même super content, quoi, parce que je les ai bien aimés, je les ai découverts lors des émissions précédentes. Et là, je dois dire, bon, le film, contrairement à toi, je ne l'avais pas vu. Donc j'arrivais relativement vierge là-dessus. Mais voilà, quoi, le côté bricolage de la pièce, enfin, ça m'embête vraiment d'en parler de manière négative, parce que ils sont tous adorables. Il y a un côté foufou que j'apprécie énormément. Mais j'ai l'impression que ça ne sert pas le propos terrifiant de l'histoire, et j'étais un peu déçu, pas, pour ma part pas du tout emballé, pas du tout choqué par les histoires de trahison, parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage, et pardon, encore une fois, toutes les trouvailles, la manière de jouer, le côté relax, le côté on rigole un peu tous ensemble, ils viennent dans le public et tout ça j'adore, mais vraiment non, enfin je suis très déçu. Alors en même temps, vu qu'on parle de spectacles qui sont créés par le collectif, je me dis que ben on voyait la première là aux Amandiers et ben peut-être en fait que ça va évoluer, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, je sais pas, mais moi il me manquait un truc, et puis mais par contre ça m'a donné envie de voir le film, mais je pense pas que ce soit ça le but de tout ça, donc voilà.
Alors pas convaincu complètement, mais vous gardez la parole, et c'est à nouveau toi, Guillaume.
J'ai vu qu'il surveille,
mais peut-être, mais non.
Ah non, ok, bah non, Guillaume, tu ne prends pas la parole.
Séverine Chavrier. Alors, du coup, il s'agit de la pièce Occupation vue au T2G samedi dernier, donc avec Thomas. Parce qu'enfin, je fais ce détour par l'amour pour traiter un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, car je le trouve profondément subversif. La tendresse. Pourquoi dites-vous cela, Séverine Chavrier ? Vous voyez beaucoup de tendresse sur les plateaux de spectacle en France ? Des corps qui se relâchent, des corps qui se touchent. Il y a un vrai terrain à explorer à cet endroit-là. Fin de citation. Bien. Fail total ! Je ne sais pas par où commencer tant la pièce Occupation, mise en scène donc par Séverine Chavrier et vue au théâtre de Gennevilliers samedi dernier, me laisse le souvenir d'un rendez-vous manqué avec cette même tendresse avec laquelle elle nous annonce vouloir faire théâtre. Et l'amour ? De nouveau la revoici. Je cherche à comprendre et esquisser les nouvelles politiques de l'amour. Comment elles et ils s'engagent, transgressent ou pas, envisagent la conjugalité, la sexualité, le genre. Comment elles et ils mettent en scène le désir. Fin de citation, bis repetita. Ici, point d'amour et de désir. Plutôt une avalanche d'images qui flirtent entre corps violentés et comédiens transformés en avatars obscurs et dérangeants, images retransmises par écran. Tout un dispositif supra-décorporalisé. Nous sommes dans l'anti-théâtre. C'est Chavrier qui le dit. Je cite « Je ne cesse de me battre contre le théâtre avec mes propres outils ». Cette occupation occupe littéralement tout l'espace sensible et mental du spectateur. C'est une prise d'otage visuelle, auditive et intellectuelle. Les Ernaux, Preciado, Butler, Godard sont cités en mode slogan projeté sur les tulles qui enveloppent les échafaudages étagères qui encerclent les quatre comédiens. Ce déferlement d'images m'a rendue hagarde. Je me transforme petit à petit en spectatrice passive. Le sommeil n'est pas loin. C'est du théâtre qui fait effectivement écran. Écran à la pensée. Pour preuve, cette sidération se retrouve même dans l'espace de mon inconscient. Il s'est passé quelque chose d'intéressant qui, selon moi, n'est pas sans lien avec cette expérience d'impensé, d'un anti-théâtre qui figerait même la critique. J'ai rêvé, mes amis, la nuit dernière, ou plutôt devrais-je dire j'ai cauchemardé. Je vous raconte, amis de la psychanalyse, bonsoir. J'étais en répétition avec une compagnie dans un grand théâtre type T2G, quand tout à coup, on se fait virer par toute une compagnie qui arrive avec violence, nous fichant dehors pour totalement occuper le plateau par leurs propositions artistiques. Nous sommes sommés de quitter les lieux, fissa. Alors que Hélène rassemble ses affaires, la répétition se transforme en représentation. Le public s'installe, ça commence. Je cherche à sortir discrètement et suis suivie par d'autres spectateurs. Une sensation d'inquiétude et d'urgence nous envahit. Il faut quitter ce lieu. Cette sortie se transforme en cauchemar géant, le théâtre se transforme en labyrinthe et au moment où nous apercevons les sorties, celles-ci se referment avant que nous ayons pu les franchir. Je suis enfermée à l'intérieur du théâtre occupé. Je suis prise en otage par une pièce que je fuis. Ce cauchemar me renseigne, c'était la nuit dernière. Il me dit ce que j'ai fui durant les deux heures de représentation. L'idée du sans issue, j'étais acculée à voir ce que je ne voulais pas voir. Alors peut-être était-ce ce que Chavrier voulait atteindre en nous, l'idée de l'insupportable violence commise sur les femmes et notre détournement. Mais au lieu de sortir augmentée de cette représentation, j'en sors esquintée, à tel point que c'est l'inconscient qui a fait le travail de déplacement pour rendre compréhensible ce qui a été subi. On ne répond pas à la violence par la violence. Et toi Thomas, qu'en as-tu pensé ?
Ah, bah, j'ai l'impression qu'on a été à peu près au même endroit. Hein. Moi, c'est d'abord un spectacle qui m'a saisi. Au bout de 5-10 minutes, je me suis rendu compte que tout mon corps était tendu, bouffi de stress et d'angoisse. Peut-être parce que j'étais au premier rang, c'était peut-être pas une bonne idée. Et j'avais devant moi ce mur écran qui débordait. Alors l'installation est magnifique, hein. C'est-à-dire, quand même, c'est assez beau, c'est en bifrontal. Ils reproduisent une espèce de supermarché, appartement sur lequel ils sont enfermés. Mais il y a aussi ce son très fort, alors Massive Attack, remixé par Portishead. J'aime bien interroger quand on a des vieux morceaux comme celui-là. Je me dis, ah, ça signale un peu l'univers mental du créateur, de la créatrice. Massive Attack, remixé en par Portishead. Bah, faut avoir 50 ans pour... Ensuite, il y a eu cette envie de partir, très forte. Parce que finalement, je voyais des images que...
comme toi, j'avais pas du tout envie de voir, que je ne m'attendais pas à voir la c'est pornographie ça. Suggérée. Il y a beaucoup de godemichets, les beuveries, les mutilations, les tentatives de suicide, les Barbies qu'on noie comme si on opérait un féminicide. Alors bien sûr, tout ça n'est pas clairement montré. Il s'agit de suggestions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être finalement, ça en dit plus sur mes angoisses à moi que sur la pièce elle-même. Mais Séverine Chabrier, elle joue avec cette violence. Et je me suis senti donc, comme toi, pris en otage. D'autant que la feuille de salle semblait promettre qu'on parlerait ici d'amour. Moi, j'ai vu que de la sexualité, et puis une sexualité capitaliste de société de consommation. Et alors qu'on m'avait promis une révolution, j'ai vu que des échos de Godard, que des redites d'une pensée 68 bien célèbre et rabâchée, qu'a produit justement cette marchandisation des corps, ce culte de la jouissance à tout prix, et qui se trouve, il me semble, discrédité aujourd'hui pour apporter des solutions. Mais j'ai surtout eu le sentiment que les solutions, ça n'intéressait pas Séverine Chabrier, qu'elle voulait juste dénoncer ce que l'on sait déjà, une dénonciation pêle-mêle, sans sortie, sans issue de secours, sans espoir. C'est seulement en discutant avec toi, Hélène, à la fin, qu'il m'est apparu que peut-être cette fin, c'était l'espoir, parce qu'elle ouvre le dispositif scénique à la dernière minute, et à ce moment-là, les interprètes se taisent enfin et commencent à danser. Et c'est à ce moment-là que nous-mêmes, spectateurs, on se trouve libérés, lâchés dans le monde à nouveau. Voilà, grande déception.
Ouf. Alors, cette fois-ci, vraiment, I Will Survive. Et donc, Guillaume, tu as la parole pour nous dire ce que tu as pensé de ce spectacle des Chiens de Navarre, qui est encore à voir à la Villette jusqu'au 13 décembre.
Alors, tout d'abord, merci Thomas. Merci Thomas de m'avoir proposé ce spectacle. Parce que alors, je ne savais pas ce que j'allais voir, interdit au moins de 16 ans. Je me suis dit, oula, ça va être un machin ultra violent.
Trigger warning, VSS.
Alors, je vous dis quand même où c'était. Donc, c'est un spectacle, donc I Will Survive, de Jean-Christophe Meurice et les Chiens de Navarre. Et c'était dans la Grande Halle de la Villette. Alors, c'est du 9 décembre au 13 décembre. Alors, vous avez encore du temps pour y aller, mais vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a plus de place. Mais, écoutez, moi, c'est la première fois que je vais voir ces Chiens de Navarre. Ce sont des grands, grands malades, des grands, grands tarés. Ça part dans tous les sens. En fait, l'histoire, si vous voulez, c'est l'histoire de deux procès. Donc, un espèce de comique vraiment nul, ma comique de France Inter, qui fait un dérapage ultra nul, une blague sur les femmes à base de fruits. Une blague, somme toute, très très mauvaise, mais ce qui va lui coûter très cher parce qu'il va se retrouver en prison pour cette mauvaise blague. Et en même temps, on suit la triste histoire de cette femme qui a tué son mari à coups de fusil à pompe, mais mari qui l'a frappé lourdement pendant 20 ans. Donc voilà, ces deux destins se croisent. Il y a des moments absolument terrifiants, avec du sang partout et tout ça, des moments de procès qui sont absolument gigantesques. Enfin, je veux dire, ne venez pas habillé en blanc si vous êtes au premier rang, parce que c'est ils en foutent partout. C'est violent, c'est rigolo, c'est superbe. Et j'ai même pas envie de vous dévoiler trop la pièce, quoi. Mais il y a une scène de cauchemar en prison où on vit le cauchemar de ce pauvre humoriste, et c'est c'est somptueux, quoi. Enfin, voilà. Donc, franchement, si c'est reprogrammé, alors j'ai pas trouvé les prochaines programmations, mais allez le voir. Et alors, toi, Camilla, qu'est-ce que t'en as pensé?
La violence faite aux femmes, traitée par les Chiens de Navarre, c'est pas mal. C'est une bonne claque. J'ai bien aimé, beaucoup. Il n'y a pas vraiment de nuances, mais ça a de la force et c'est assez heureux aussi. Il y a des moments où on arrive à rigoler face à l'absurdité de notre société et de la justice. C'est sûrement une pièce à voir dans cette fin d'année, ce moment des fêtes de Noël, une famille où souvent il y a autant de violence. Et sachant la quantité de mecs violents et hyper violents qui se baladent encore aujourd'hui dans les rues et qui peuvent encore être dans l'insouciance et l'impunité. Je considère que les 80% des mecs donnent des coups. Je ne pense pas être la seule à penser ça. Donc oui, je pense qu'il y a du travail à faire et qu'on n'a pas de temps à perdre, évidemment.
Bon, bah donc, à suivre, puisqu'a priori, plus de place pour les voir à la Villette. Mais suivez les chiens de Navarre.
Mais on peut faire le pied de grue.
Oui, il faut essayer. Il y a toujours une ou deux places. Donc, allez-y.
Voire plus.
Voire plus, parfois.
C'est quand même la Villette.
Oui, c'est vrai que c'est la Villette, il y a de la place. Donc, tentez-le. Alors, on va terminer ces chroniques avec Morphage de Valérian Guillaume, au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 9 décembre. Valérian Guillaume... Guillaume nous le disait tout à l'heure, qu'on a déjà reçu ici. Nous sommes allés voir ce spectacle, Alice et moi. Alice, je te laisse commencer.
Oui, c'était à la Cité Internationale. Alors, nous sommes allés voir Morphage. Déjà, le titre m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, c'est un auteur. Pareil, une curiosité de voir un auteur interpréter ses textes. Comment qualifier cette expérience théâtrale, alors ?
Souffrance.
Une expérience, oui. Un seul en scène, oui. Le titre Morphage, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Alors, en anglais, ça veut dire métamorphoser, et le ing signifie l'action en train de se faire. Alors, que fait Valérian, l'auteur de la pièce ? J'ai perdu son nom, Valérian Guillaume. Que fait Valérian Guillaume pendant une heure ? Quelles sont ses métamorphoses ? En réalité, je n'ai pas perçu de métamorphose. L'interprète de ses textes parle, 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 en continu et en solo. Voilà un homme qui parle plus que toi, Julien. Valérian Guillaume est l'auteur, acteur, metteur en scène. Peut-être que c'est trop, en fait, de tout faire. Hein. Alors, quel est son propos ? Une logorée sans recherche de sens, il nous perd. Pourquoi pas ? Valérian Guillaume est adepte d'un théâtre de la sensation, de l'émotion. Je n'ai malheureusement ressenti aucune émotion, aucune sensation, bien que son intention soit intéressante. Ce spectacle est un télescopage de mots, pourquoi pas, miroir, reflet de pensées intérieures entremêlées, intérieur de l'acteur-auteur. Comme si nous étions dans l'estomac de sa pensée, dégoûtant. Un kaléidoscope intérieur dépourvu de beauté, pourquoi pas. Le performeur parle sans s'arrêter pendant une heure. Horrible, aucun silence. Le musicien du spectacle parle de concert, mais de la musique sans silence, c'est du bruit. L'expérience du dire n'est pas intéressante, mais c'était un peu long pour moi pour évoquer ses pensées intérieures comme de l'écriture automatique. J'aurais préféré voir quelque chose de plus court. Une heure, c'était long pour moi. Je ne sais pas si le théâtre, c'est le bon lieu pour cela. Peut-être que sa performance serait plus intéressante dans un lieu d'espace public, avec, pour le coup, des choses inattendues, en lien, pourquoi pas, en dialogue avec l'espace public et puis les personnes qui le surprendraient à parler comme ça. Qu'est-ce qu'une mise en... Est-ce que cette... Enfin, je me suis questionnée sur la mise en scène. Puisque ce spectacle, pour moi, la matière principale, ce sont les mots, le verbe. Et je n'ai pas senti ce verbe nous emmener dans quelque chose d'intéressant, en tout cas. Ce serait peut-être plus heureux que ce texte soit dit par un autre, comme je l'ai dit en début de chronique. Donc, impression de quelque chose d'encore inabouti. Cette performance, voilà, inspirée des fantasmagories. J'ai un peu cherché ce que c'était, mais j'ai pas vraiment ressenti ça non plus dans la mise en scène. Bon, en tout cas, je suis curieuse de voir un petit peu toi ce que t'as perçu.
Ah ben moi, il y en a une de sensation, hein, de l'ennui. Ah, je me suis profondément ennuyé. Oui, il parle, mais pour ne rien dire. On a une mise en scène, mais pour ne rien montrer. Oui, effectivement, c'est de la performance. Et en fait, peut-être tout simplement qu'il n'a pas sa place dans l'émission, et c'est pas un reproche dans les propositions de Thomas, puisque c'est quand même dans un théâtre, mais c'est pas du spectacle vivant, c'est de la performance, c'est un acte, mais c'est un acte pour rien. Et en fait, quand on n'a rien à dire, peut-être autant se taire.
Qu'est-ce que la performance, Julien, si ce n'est qu'un acte performatif du vivant? Et donc, potentiellement, qui aurait sa place dans les théâtres ou dans les lieux d'exposition, en tout cas dans le lieu du vivant. Si c'est pas là, c'est où ?
Dans la rue.
Mais c'est aussi du spectacle dans la rue.
Alors, pour moi, c'est plutôt le genre de choses qui s'expose en galerie. Et j'ai vu des performances en galerie ou dans des lieux vraiment d'exposition. Pour moi, là, c'était de l'exposition. Il n'y avait pas du tout de ce que moi, en tout cas, j'attends dans un lieu où on prétend faire du spectacle vivant. C'est-à-dire quelque chose qui a quelque chose à dire, qui sert à... Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il nous montrait juste sa grande capacité à réciter en continu, quasiment sans respirer.
De l'écriture automatique.
C'est impressionnant, c'est d'un point de vue physique. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais pourquoi le mettre sur ça? Et surtout, pourquoi être...
Comme les artistes de cirque.
Comme le mauvais cirque.
Rien à voir.
Comme le mauvais cirque, je sais ton goût pour... Non, franchement, et d'ailleurs, c'est amusant que tu dises ça, parce que je suis sorti de là en disant justement que ça me faisait penser à du mauvais cirque. Ce cirque où, justement, on montre qu'on peut sans avoir rien à dire, sans avoir quelque chose à transmettre. Ça, je pense que ça ne cherchait pas à transmettre, ça cherchait juste à montrer une énorme capacité. En soi, ça, je la reconnais. Mais
pas de
j'en
chance.
Reste là, voilà. Alors, en tout cas, on a quand même eu... quelques grands plaisirs visibles dans cette émission, puisqu'on vous conseille d'aller voir quand vous pourrez et où vous pourrez le Nexus de l'Adoration. On vous a un peu moins proposé d'aller voir à propos d'Eli du Tégestan.
Ça sera toujours Tégestan,
au Théâtre de Nanterre à Mandier. Grande envie d'aller voir I Will Survive au théâtre de la Villette jusqu'au 13 décembre. Et pas forcément une énorme recommandation pour Occupation de Séverine Chevrier au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 15 décembre. La dernière, on vous le rappelle, c'était Morphage de Valérian Guillaume. Mais faites-vous votre avis et on se retrouve avec plaisir en janvier.
Et bisous, et bonne soirée. Ciao les amis, ciao. As the day must have its sun, and the night must have its moon, sure as both must rise and fall, I'll be there to see you through. Just as long as there is time, I will never leave your side. And I feel a bad feeling that my love is not sincere. I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart.